propose de commencer cette conférence qui se déroulera en deux temps. Alors je remercie chacun d'être venu. Bienvenue dans les locaux de la librairie Jean Calvin et des locaux de la mission qui nous sont prêtés pour cette conférence. Bienvenue à tous. Cette conférence, disais-je, donc, se déroulera en deux temps. Une première partie, donc exposé de M. Hubert Bost de 45 minutes, et puis ensuite un temps de questions, de remarques, d'interventions, et ce sera donc votre part. Alors Sainte-Beuve, le critique littéraire, dans une de ses causeries du lundi, publie dans les années 1850 une attaque féroce contre la Baumelle, qualifiée d'éditeur infidèle par excellence. Ce regard, majoritaire parmi les lettrés, s'impose pendant presque deux siècles. Voltaire, l'ennemi farouche de la Baumelle, triomphait. Jusque dans les années 60, en tout cas, car à cette date, des auteurs étrangers, dont un Italien notamment, mais pas seulement, Diaz, relève le combat et révèle le combat de la Baumelle pour la tolérance, permettant ainsi de poser un autre regard sur ce Cévenol. Il faut dire que le caractère de la Baumelle n'a pas joué en sa faveur. Il provoquait les frictions et les jalousies avec beaucoup de succès, tant ses propos pouvaient être vifs et piquants. Il fait de cette plume aiguisée une arme pour manifester son attachement aux Huguenots, qui se joignait chez lui à un attachement profond à la liberté de conscience qu'il paya, cet attachement par deux fois d'un séjour à la Bastille. Alors certes, sa témérité le distingue d'un Antoine Court ou d'un Rabault qui, eux aussi, travaillèrent d'une manière ou d'une autre à la reconnaissance légale du protestantisme français. L'histoire de la tolérance civile, c'est-à-dire le droit de vivre et de mourir, pour simplifier très largement, dont vous allez nous entretenir ce soir, M. Hubert Bost, est donc une histoire de différence, pourrait-on se dire. Sans doute, différence de tempérament, différence de foi, différence de milieu qui la complexifie à loisir, mais qui, de part et d'autre du siècle de la Révocation, sont au service d'une même lutte, la tolérance civile. J'arrête ici, je suis donc heureux ce soir de recevoir Hubert Bost, directeur à l'École pratique des hautes études, où vous occupez la chaire, j'espère que mes informations sont encore exactes, la chaire du protestantisme et culture dans l'Europe moderne, du XVIe au XVIIIe siècle. Vous êtes un spécialiste de Bayle, qui a joué un rôle de précurseur dans cette revendication protestante. Et vous avez publié en 2006 une biographie remarquée, ici présente, de l'Ariégeois aux éditions Fayard. Depuis, vous avez édité aussi de nombreux travaux sur Antoine Court. Vous avez dirigé notamment un colloque. Et plus récemment, depuis 2005, eh bien, vous êtes lancé dans la co-direction pour l'édition de la correspondance de la Baumelle. Vous étiez donc particulièrement indiqué pour venir nous parler, nous présenter ce sujet riche et passionnant, la revendication protestante de la tolérance civile au siècle des Lumières, autour d'Antoine Court, la Baumelle et Rabault-Saint-Étienne. Je vous remercie au nom de la librairie d'avoir accepté notre invitation et c'est avec plaisir et impatience que je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Merci de ces paroles d'accueil et le plaisir d'être parmi vous est partagé. Je suis très heureux de pouvoir parler avec vous de ces hommes de lettres, encore que le qualificatif soit peut-être un peu excessif pour certains d'entre eux, de ceux qui, dans des conditions assez terribles et exceptionnellement terribles par rapport au paysage européen, ont cherché à revendiquer et à obtenir des droits qui nous paraissent aujourd'hui relativement évidents. Et ces droits, nous les trouvons sous leur plume, en général sous les termes de liberté de conscience ou de tolérance. Étant bien entendu que l'époque dont nous allons partir est une époque au cours de laquelle ces mots, ni l'un ni l'autre, liberté de conscience ou tolérance, ne sont évidents. Il faut partir de l'idée que ce qui nous paraît aujourd'hui aller de soi constitue des objets de combat, tout simplement pour une raison qui paraît, elle, pour le coup, évidente à la au XVIe, au XVIIe siècle et encore au milieu du XVIIIe siècle, c'est qu'il est évident pour les contemporains des gens comme Pierre Bayle, Antoine Court, La Baumelle, Rabault-Saint-Étienne ou d'autres, il est évident pour eux qu'en aucune façon la vérité ne saurait partager ses droits avec l'erreur. Or, qu'est-ce qui caractérise la vérité ? C'est ce à quoi je crois. Qu'est-ce qui caractérise l'erreur ? C'est ce à quoi vous croyez si vous ne croyez pas la même chose que moi. Et la tolérance, ou la question de la tolérance, naît de cela, naît de cette interrogation-là. Évidemment, nous sommes tout de suite embarqués dans un problème qui est un problème ecclésiastique. Quelle est la bonne doctrine par rapport à l'hérésie ? Quelle est l'orthodoxie par rapport à l'hétérodoxie ? Et nous sommes immédiatement engagés dans un problème qui est politique, à savoir, est-ce que l'on va reconnaître des groupes qui sont dissidents et qui, parce qu'ils sont doctrinalement dissidents par rapport à l'Église officielle du Royaume de France, pour prendre un exemple, parce qu'ils sont dissidents, représenteraient un danger de rébellion, un danger de sédition, de désordre. Problème théologique, problème politique, qui, en quelque sorte, d'emblée, campe le paysage d'une double tolérance, celle dont vous avez parlé à l'instant, la tolérance civile, et l'autre, la tolérance ecclésiastique. Je donne ces points de repère, conceptuels, pour nous permettre ensuite de circuler dans le siècle, à travers lequel je donnerai aussi quelques points de repère chronologiques vous permettant de vous repérer dans les positions que les différents auteurs que je vais aborder ce soir adoptent. Je dis donc tolérance civile et tolérance ecclésiastique. La tolérance ecclésiastique, c'est ce que les hommes de l'époque dont je parle ne se préoccupent pas. La tolérance ecclésiastique signifierait qu'à l'intérieur d'une même église, on puisse croire et penser des choses différentes, voire opposées. Dans beaucoup d'églises pluralistes aujourd'hui, tant protestantes que catholiques, on considère que les gens croient un certain nombre de choses, mais qu'au fond, la marge de la latitude pour croire à telle ou telle doctrine est relativement importante. Au XVIIe, au XVIIIe siècle, les droits de la vérité n'étant pas partageables avec ceux de l'erreur, il est tout à fait évident que dans une église donnée, on ne peut que croire que ce qui est la doctrine officielle de cette église, et sinon, on appartient à ses dissidents. Il n'y a donc pas, chez les hommes dont je parle, et pardonnez-moi mesdames si je dis les hommes, ça n'est pas pour exclure les dames, c'est qu'il n'y a pas de dames qui parlent de ces questions-là, à cette époque. Les hommes qui parlent de ces questions-là ne sont pas préoccupés de tolérance ecclésiastique. Ils considèrent qu'à l'intérieur d'un groupe aussi défini par sa doctrine que doit l'être une église, il est normal qu'il n'y ait pas de tolérance, qu'il n'y ait pas de marge de latitude dans la mesure où sinon on ne sait plus qu'on appartient au groupe ou qu'on ne lui appartient pas. Bien. En revanche, se pose le problème de la tolérance ecclésiastique, de la tolérance civile. C'est-à-dire que lorsque dans un même espace politique, dans un même royaume, dans un même État, des femmes et des hommes vivent et croient en des doctrines différentes, il s'agit de savoir si l'on peut admettre cette différence, cette divergence, ces oppositions éventuelles. Et comment faire pour réguler ces oppositions sans que le conflit, qui est un conflit idéologique, tourne au conflit militaire. Ce fut le cas pendant les guerres civiles au XVIe siècle. De 1562 à 1598, 8 guerres de religion eurent lieu en France, qui ensanglantèrent, on se rappelle l'épisode le plus important, la Saint-Barthélemy, 24 août 1572, qui ensanglantèrent la France. Il y a un traumatisme là qui amène les penseurs, qu'il s'agisse des théologiens, des philosophes, des juristes, des historiens, qui amène ces penseurs à s'interroger sur la nécessité et les moyens de rendre possible une coexistence pacifiée de groupes qui n'acceptent pas de se réduire les uns aux autres. La première configuration qui a été inventée en France à cet égard-là, c'est celle d'Henri IV avec l'édit de Nantes, 1598. On dit, il y a une religion catholique en France, c'est la religion officielle, mais il y a une minorité protestante à laquelle on accorde ce qu'on appelle alors des privilèges, des droits spécifiques. Et voilà que, deuxième étape très importante dans cette histoire, Louis XIV, héritier et descendant d'Henri IV, abolit, révoque cet édit de Nantes en 1685, en disant ou en prétendant qu'il n'y a plus de protestants en France et que par conséquent cette situation d'exception n'a plus lieu d'être. Ce discours politique consiste à affirmer une vérité politique qui n'est pas conforme à la réalité sociale de la France. Des protestants, il en existe. Il en existe plusieurs centaines de milliers en France, même si un certain nombre d'entre eux, avant et après la révocation, ont décidé d'émigrer, peut-être pas autant que l'historiographie a pu le dire à une certaine époque, mais certainement plus de 200 000 protestants ont émigré en Hollande, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse et dans d'autres pays. Voilà le décor. Tolérance civile pour les protestants, pour éviter la guerre de religion, c'est ce qui est proposé par Henri IV. Intolérance civile à l'égard des protestants, au motif qu'ils n'existeraient plus, c'est ce qui est imposé par Louis XIV. Et le XVIIIe siècle, à cet égard, celui dont je vais vous parler, naît de ce refus d'envisager la réalité de l'existence du protestantisme. Les deux auteurs qui me paraissent avoir rétrospectivement marqué le plus l'histoire de la revendication protestante de la tolérance en France au XVIIIe siècle sont, à mes yeux, un philosophe historien et un pasteur. Historien aussi. Le philosophe historien, c'est Pierre Bayle, dont le premier travail consiste à prouver que ni l'Évangile ni la raison ne peuvent fonder l'idée qu'on soit intolérant à l'égard de la conscience de quelqu'un d'autre. Car tout simplement, on peut forcer une main à signer, mais on ne peut pas forcer un esprit à croire quelque chose. C'est dans un ouvrage au titre à rallonge que je vous cite exactement en 1686, c'est-à-dire au lendemain de la révocation de l'édit de Nantes, que Bayle annonce un commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ contre un lait d'entrée, où l'on prouve par plusieurs raisons démonstratives qu'il n'y a rien de plus abominable que de faire des conversions par la contrainte, et où l'on réfute tous les sophismes, les faux raisonnements, des convertisseurs à contrainte et l'apologie que saint Augustin a faite de la persécution. Je reviendrai sur saint Augustin si vous le souhaitez dans vos questions, je ne m'y arrête pas pour l'instant. Voilà pour le philosophe historien. Le pasteur historien, maintenant, c'est Élie Benoît, pasteur de Delft, qui avait été auparavant pasteur à Alençon, en Normandie, et qui écrit une monumentale histoire de l'édit de Nantes. Et là aussi, je vous cite tout son titre, car nous ne lirons pas les 5 volumes, mais au moins le titre nous donnera un écho ou une idée de ce qu'il contient. Histoire de l'édit de Nantes, contenant les choses les plus remarquables qui se sont passées en France avant et après sa publication, à l'occasion de la diversité de religions, c'est-à-dire du fait qu'il y a des religions diverses en France, et principalement les contraventions, inexécutions, chicanes, artifices, violences et autres injustices que les réformés se plaignent d'y avoir souffertes jusqu'à l'édit de révocation en octobre 1685, avec ce qui a suivi ce nouvel édit jusqu'à présent, c'est-à-dire une douzaine d'années après. Et là, Benoît, lui, en historien, mais aussi en juriste, essaye de rappeler, avec une, une nostalgie et une virulence qui ne sont pas toujours parfaitement de bon aloi, mais qui sont certainement sincères, que l'édit de Nantes ayant été déclaré perpétuel et irrévocable, il était inique de le révoquer. Je dis une bonne foi évidente de la part de Benoît, mais peut-être une certaine naïveté, dans la mesure où tous les autres édits de pacification qui avaient suivi les autres guerres de religion étaient eux aussi perpétuels et irrévocables et avaient eux aussi été transgressés. Voilà mes deux piliers, Bayle et Benoît. Il se trouve que les arguments que vont utiliser les hommes du XVIIIe siècle pour revendiquer la tolérance se baseront soit sur l'argumentaire philosophique de Bayle en faveur de la liberté de conscience, soit sur le caractère injuste, pour ne pas dire inique, de la révocation de l'édit de Nantes et donc de la nécessité de révoquer la révocation, c'est-à-dire de rendre aux protestants un statut qu'ils ont perdu au siècle précédent. Ils ont ces deux fondements conceptuels qui touchent à la fois à l'histoire, au droit et à la philosophie, et ils essaieront, chacun à sa manière, dans des genres littéraires différents et avec des arguments qui seront plus ou moins bien mis en place dans leur raisonnement, ils essaieront de s'adresser tantôt à l'opinion publique, tantôt au roi lui-même, pour faire comprendre que la situation des protestants est intenable, qu'il existe bel et bien des protestants en France et qu'il ne saurait être question d'en nier l'existence, car en nier l'existence, c'est se poser un problème pas tellement théologique, mais politique, civil et politique. Je rappelle brièvement quelques dates qui nous permettent de nous repérer dans le cours du XVIIIe siècle. Je n'ai pas besoin, certainement ici, de vous rappeler celle de la guerre des Camisards. 1702-1710, pour prendre les dates les plus larges. Je rappelle simplement que cette guerre, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure des guerres de religion du XVIe siècle, a un relent de guerres religieuses et rappelle qu'une quinzaine d'années après la révocation de l'édit de Nantes, avoir nié l'existence des protestants, c'est en quelque sorte prendre le boomerang dans la figure et se rendre compte que le problème n'est pas réglé au moment où l'on dit qu'il est réglé parce que les adversaires auraient disparu. Il y a là un premier élément qui va rendre très sensible le pouvoir, la cour à Versailles et les intendants évidemment en Languedoc, en Bas-Languedoc en particulier, mais aussi les intendants d'autres provinces comme le Poitou par exemple, où des minorités protestantes sont importantes. Deuxième date pour se rappeler la chronologie, en 1715, l'année où Louis XIV meurt et où commence donc la régence de Philippe d'Orléans, les premières tentatives de restauration d'églises clandestines sont mises en place sous la direction notamment de Pierre Cortès et d'Antoine Court. C'est à partir de ce moment-là que l'une des façons de résister et de revendiquer la tolérance des protestants se met en place, et c'est une façon ecclésiastique. Nous revenons, disent Cortès, Court et leurs compagnons, nous revenons à la situation antérieure à la révocation de l'édit de Nantes, nous considérons que, bien que le roi les interdise, le roi des rois nous l'ordonne, Dieu nous ordonne de nous assembler, donc nous rétablissons la discipline, le catéchisme, les synodes, les consistoires, c'est-à-dire les conseils presbytéraux, les pasteurs que nous allons essayer de former, notamment dans un séminaire qui s'organisera quelques années plus tard à Lausanne. Première tentative donc pour donner une réponse institutionnelle après la réponse violente et à laquelle a correspondu la guerre des Camisards, réponse institutionnelle et réponse ecclésiastique. Deuxième élément de datation, dans cette période au cours de laquelle des synodes commencent à se tenir, intervient un tout jeune homme originaire de Valrhogue et qui est parti, je ne dirais pas faire fortune, mais faire carrière via Genève au Danemark, Labomel, qui écrit un petit roman qui s'appelle « L'Asiatique tolérant ». Je reviendrai sur « L'Asiatique tolérant », 1748, c'est la première tentative qui ne soit pas une requête des protestants eux-mêmes, des protestants en tant que corps protestant, présentant une supplication, une plainte au roi, à l'intendant, etc. C'est la première tentative littéraire pour poser le problème de la tolérance au milieu du siècle. J'insiste sur le fait que cette tentative est tardive, tout simplement parce que si la révocation de l'édit de Nantes a eu un effet, une efficacité considérable, c'est bien en ce qu'elle a empêché les protestants d'avoir des cadres intellectuels pendant plus d'un demi-siècle. Il y a bien sûr des gens qui savent tenir la plume, il y a des gens qui savent prêcher, j'en citerai un qui est un avocat dans tous les sens du terme extraordinaire de la cause protestante et qui mourra martyr à Montpellier, c'est Claude Brousson. Il y a de vraies plumes dans le protestantisme. Mais là, pour la première fois, une tentative d'écriture, une tentative littéraire pour mettre en scène la question du protestantisme sous le titre « L'Asiatique tolérant ». Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi l'Asiatique. Je continue la chronologie. Peu d'années après, au courant de l'existence de l'Asiatique, de son contenu et de sa condamnation au feu par le Parlement de Grenoble, Antoine Court, pasteur, mais installé à cette époque-là à Lausanne, où il, en quelque sorte, orchestre le travail du séminaire qui forme les pasteurs, Antoine Court écrit un ouvrage qui s'appelle « Le patriote français et impartial ». On voit dans ce titre « Patriote français et impartial » qui est une tentative pour contrer l'opposition à la tolérance. On voit dans ce titre une tentative pour s'émanciper du discours qui s'affiche immédiatement comme religieux. Supplique des protestants pour demander telle ou telle chose. Le patriote français et impartial, c'est aussi une manière d'afficher le fait que la réponse tolérante qui est demandée au royaume, au gouvernement, à l'État, est bel et bien une réponse politique. On ne l'attend pas sur le plan des idées, on ne l'attend pas sur le plan théologique, on attend une réponse patriotique. Comment se fait-il, se demande Antoine Court, comment se fait-il que dans un pays aussi marqué par les Lumières que l'est la France, par le règne de la raison, de la science et de la philosophie, on soit en quelque sorte aussi arriéré sur le plan des relations interconfessionnelles par défaut de médiation politique. Je continue. D'autres écrits vont commencer à apparaître dans ces années-là. 1753, un accord parfait de la nature, de la raison et de la révélation et de la politique au sujet des protestants. Un auteur plus ou moins anonyme qui s'appelle Le Chevalier de Beaumont, on peut se demander si ça n'est pas un comité qui s'est organisé pour l'écrire, mais là aussi on commence à penser juridiquement, philosophiquement le problème. Deux ans plus tard, un mémoire théologique et politique au sujet des mariages clandestins de France, des protestants de France. Je n'ai pas encore parlé de la question des mariages, mais c'est une question épineuse pour les protestants eux-mêmes, mais pour l'État aussi. Et c'est, nous le verrons, une des raisons pour lesquelles l'État ne peut pas rester complètement sourd à ses suppliques. Brièvement, pourquoi ? Du côté des protestants, ne pas se marier à l'église devant un curé, c'est renoncer à un héritage légal. C'est avoir des enfants bâtards, et c'est, d'autre part, renoncer à des garanties sur l'héritage, sur la transmission du patrimoine, et donc, dans certains cas, fragiliser de manière considérable la famille et, au-delà, l'économie du village ou de la région. Mais du côté de l'État lui-même, c'est consentir au fait que, et de ce point de vue-là, ni les juristes, ni les parlementaires, ni même l'entourage des rois qui se succèdent, Louis XV et Louis XVI en particulier, ne ferment les yeux, c'est consentir à ce qu'une forme d'immoralité marque un nombre important de couples qui vivent dans ce qu'aux yeux de la doctrine catholique, on ne peut qu'appeler un concubinage. C'est donc, en quelque sorte, admettre que, à cet égard, l'État, le royaume, n'est pas capable de trouver une solution, une médiation, qui permette à ces gens qui refusent de se marier à l'Église, qui décident d'aller se marier, comme on dit, au désert, c'est-à-dire qui contractent un mariage considéré comme nul et non avenu aux yeux de l'Église, donc aux yeux de l'État, c'est considérer que cet état de fait est absolument insoluble, irrémédiable. Or, progressivement, cette question du mariage va devenir la clé de voûte du dialogue entre les protestants, leurs représentants, Rabault-Saint-Étienne en particulier, et les représentants de l'État, Malesherbes en particulier. Je n'anticipe pas, je saute une décennie pour dire que des événements extérieurs ou en grande partie extérieurs à cette revendication protestante et à cette réflexion sur philosophique, théologique, juridique, historique, je le répète, sur la liberté de conscience, des événements extérieurs interviennent. Notamment un certain nombre d'affaires toulousaines. Ces affaires toulousaines, la plus retentissante, vous en avez tous entendu parler, c'est l'affaire Calas. En 1761, Jean Calas est accusé, ainsi que toute sa famille, d'avoir tué son fils parce que celui-ci, Marc-Antoine, aurait voulu se convertir au catholicisme. Et à ce moment-là, les capitouls, en particulier un certain David de Baudrigue, décident de lancer une campagne dans Toulouse pour démontrer en quelque sorte que la doctrine protestante exige de ses sectateurs le meurtre de l'enfant lorsque celui-ci veut partir dans une confession qui n'est pas le protestantisme. C'est évidemment une allégation fausse pour laquelle La Baumelle, encore lui, tiendra la plume du pasteur Paul Rabault dans un petit ouvrage qui s'appelle « La calomnie confondue », qui est destiné à contrer cette campagne de dénigrement qui se déroule à Toulouse dans les années 1761-62. Néanmoins, une année plus tard, Calas est roué à Toulouse, 9 mars 1762, et deux autres affaires interviennent, l'une au même moment, c'est celle de l'arrestation du pasteur Rochette, et l'autre, un tout petit peu après, c'est l'histoire de Sirvin ou Sirvaine, dont la fille tombe dans un puits et dont on accuse le père, Pierre-Paul Sirvin, d'avoir tué sa fille pour les mêmes raisons que celles qu'on a vues à propos de Calas. Or, là intervient, 1763, un certain Voltaire qui écrit un traité sur la tolérance. Ce traité sur la tolérance est un amalgame de textes extrêmement composites, où il est question d'un meurtre qui s'est passé en Angleterre, celui d'Elizabeth Canning, d'un meurtre qui s'est passé en France, d'un suicide qui s'est passé en France, celui de Marc-Antoine Calas, et puis un certain nombre de chapitres sur la question de la tolérance et de la liberté dans la Bible, dans l'Antiquité, plus récemment, etc. On s'aperçoit en étudiant ce traité extrêmement composite, qui donc ne mérite pas à mes yeux le titre de traité au sens de somme qui voudrait faire le point sur une question comme celle-là, on s'aperçoit que Voltaire a puisé notamment dans le patriote français et impartial de cour un certain nombre des exemples qu'il recycle dans son traité sur la tolérance. donc que l'influence indirecte de la revendication protestante commence à filtrer dans des ouvrages de philosophes, comme celui de Voltaire. Et peut-être plus piquant encore, quand on remonte la genèse du patriote français et impartial, on retombe sur l'asiatique tolérant de La Baumelle. Or, en 1763, lorsque Voltaire écrit son traité sur la tolérance, c'est un ennemi juré de La Baumelle. Mais sans le savoir, il recycle des idées qu'avait La Baumelle. C'est assez amusant. Ça n'est pas du tout une façon de dire que La Baumelle aurait participé au traité sur la tolérance de Voltaire. Lui, de son côté, prend une autre voie qui est celle, un peu comme Cour en 1715, de passer par les églises pour écrire une requête des protestants français au roi. C'est ça que j'ai... Voilà. C'est le deuxième des traités sur la tolérance que j'ai publié ici après l'asiatique tolérant. Cette requête n'a jamais été publiée parce que le synode l'a jugée politiquement beaucoup trop risquée. Elle était beaucoup trop républicaine à ses yeux. Elle contestait beaucoup trop le pouvoir absolu du monarque. Elle remettait beaucoup trop en question ce qu'avait été la politique de Louis XIII, de Louis XIV, de la Régence et de Louis XV. Par conséquent, le synode de 1763 a jugé beaucoup plus prudent de ne pas adopter ce texte, qui est resté dans la famille de La Baumelle jusqu'à aujourd'hui et qui est resté inédit sous plusieurs versions qui avaient été recopiées dans l'espoir que adopté, il serait bientôt imprimé. La Baumelle a en quelque sorte contribué à sa façon, après l'asiatique tolérant et la calomnie confondue, à ce combat pour la tolérance, mais ce dernier acte de sa propre contribution est un acte qui n'a finalement débouché sur rien, puisque, encore une fois, la question a été enfouie dans un tiroir. Je voudrais quand même continuer ma chronologie en disant que 3 ans jour pour jour après l'exécution de Jean Calas, le 9 mars 1765, grâce non seulement à son traité sur la tolérance, mais aussi à une campagne de presse et une campagne épistolaire extrêmement dense, Voltaire obtient la réhabilitation de Jean Calas et par conséquent, la condamnation du Parlement de Toulouse, qui a jugé et condamné le pauvre marchand de la rue des Filatiers comme un parricide. Cette date de 1765 est très importante, dans la mesure où on commence à comprendre que le traité sur la tolérance et l'écriture de la tolérance devient une valeur positive, alors que, si vous vous souvenez de ce dont j'ai parlé au tout début, la tolérance n'était pas au début du XVIIIe siècle et encore au milieu du XVIIIe siècle une valeur qu'on brandissait. On parle de tolérance aujourd'hui, en 1765, alors que c'était considéré comme un aveu de faiblesse. On ne tolérait que ce que l'on ne pouvait pas empêcher. Aujourd'hui, 1765, on commence à tolérer des choses parce qu'on a, en quelque sorte, découvert les vertus du respect que l'on peut avoir pour une opinion différente de la nôtre. Je suis sûr que je vous donne l'impression d'enfiler des évidences en vous disant cela. Mais je voudrais juste faire un travail d'historien en le faisant, c'est-à-dire vous faire prendre conscience d'une mutation qui se produit à ce moment-là. On change progressivement, non pas d'un jour à l'autre, mais on change de façon de se représenter le rapport à la vérité. Cette façon de se représenter le rapport à la vérité a changé parce que des gens comme John Locke, qui avait écrit une lettre sur la tolérance à la fin du XVIIe siècle, ou comme Pierre Bayle dans son commentaire philosophique, ont fait remarquer qu'il était impossible de sortir du dilemme dans lequel on se trouve lorsqu'on dit « j'ai raison, vous avez tort, j'ai donc des droits, vous n'en avez aucun », que ce dilemme est en quelque sorte consolidé, pour ne pas dire vitrifié, par un rapport aux politiques où le « j'ai raison, vous avez tort » est en quelque sorte doublé d'un « j'ai le pouvoir, vous n'en avez aucun », et qu'il n'est possible d'avoir un rapport sain à la vérité que dès lors que l'on reconnaît à l'autre les mêmes droits qu'à soi. C'est, encore une fois, historiquement, à ce moment-là que les choses se passent. Je dois dire que la filiation qui existe entre Bayle et Benoît et La Baumelle est évidente. La filiation qui existe entre Bayle et Voltaire, qui cite infiniment Bayle, est moins évidente. Elle est moins évidente parce que Voltaire est tout à fait prêt à reconnaître des droits aux minorités, mais à condition que les équilibres sociopolitiques qui risqueraient de s'en trouver chahutés ne le soient pas. Ce n'est pas toujours le cas de ceux qui, précisément, imaginent les conséquences politiques et donc d'éventuelles séditions qui pourraient découler de ces mutations et de ce rapport nouveau à la tolérance. En 1763, un autre homme avait émergé comme homme de lettres. Il s'agit de Cour de Gébelin. Il avait tenté de réunir les affaires Rochette, Calas et Sirvin dans un recueil qui s'appelle « Les lettres toulousaines ». Il avait tenté d'émouvoir l'opinion publique sur cette question-là, mais Voltaire explique aux protestants suisses qu'il est hors de question que sur ce territoire qu'il a fait sien, qui est la défense et la tentative de réhabilitation de Jean Calas, quelqu'un d'autre que lui n'intervienne. On va, en quelque sorte, arrêter la diffusion des Toulousaines de Cour de Gébelin au motif que c'est devenu l'affaire de Voltaire. Comment lui en faire grief ? Il a obtenu le résultat escompté. Obtenir une réhabilitation 3 ans après l'exécution du condamné, c'est un record absolu dans l'Ancien Régime. Vraiment, l'efficacité de Voltaire a été redoutable. Je finirai là, avant de vous donner quelques exemples en termes de genre littéraire de ces auteurs que j'ai évoqués, je finirai en disant que la progressive évolution de ce rapport à la tolérance commence à se faire jour dans les années 1770-80 avec des hommes comme Malesherbes, qui se trouve être le descendant de l'intendant Baville. C'est la même famille des Lamoignons. Malesherbes, qui est directeur de la librairie et qui ensuite devient ministre de Louis XVI, Malesherbes prend la mesure du problème protestant en termes de liberté religieuse et en termes de mariage et s'efforce d'envoyer un certain nombre de mémoires sur cette question, mémoires qui resteront lettres mortes pendant plusieurs années. Et puis c'est dans les années 1780, plutôt 85-6 même, que un jeune pasteur de Nîmes, qui avait été pasteur à Nîmes pendant 25 ans, le fils de Paul Rabot, Rabot Saint-Étienne, monte à Paris, comme on dit, et prend langue avec Malesherbes et avec le gouvernement et va devenir l'interlocuteur, notamment grâce au truchement de gens comme Lafayette, va devenir l'interlocuteur protestant du gouvernement et participer, sur un strapontin, hein, n'allez pas imaginer qu'il est reçu à Versailles dans les ors de la cour. Sur un strapontin, il va patiemment essayer d'agir pour que les revendications de la tolérance soient entendues à la cour. Il y arrivera finalement assez peu, Je ne voudrais pas donner l'impression que le travail de Rabault-Saint-Étienne a été très efficace. Mais il a été d'une grande opiniâtreté et certainement que l'édit de tolérance qui paraît à l'automne 1787 doit beaucoup à cette opiniâtreté de Rabault-Saint-Étienne, ou que plus exactement, s'il n'avait pas été là, aussi mitigé, aussi frileux qu'ait pu paraître cette idée de tolérance aux protestants, notamment du Midi, au lendemain de sa promulgation, cet édit aurait été certainement beaucoup plus prudent et frileux encore. Mais l'histoire de Rabault-Saint-Étienne avait commencé quelques années avant par l'écriture d'un roman qui s'appelle « Le vieux Sévenol », qui raconte l'histoire d'un certain Ambroise Borély, né dans les années, si ma mémoire est bonne, né en 1671, et qui donc fait tout le siècle, parce que c'est un centenaire, et subit toutes les avanies de la révocation de l'édit de Nantes. Rabault-Saint-Étienne, l'homme politique, qui devient député révolutionnaire, qui finira à la guillotine, Rabault-Saint-Étienne a été pasteur et comme pasteur a aussi essayé d'illustrer par un genre littéraire différent le combat pour la tolérance. Je résume mes remarques. Ce à quoi je voulais en venir, c'est que ces hommes ont cherché à trouver le moyen de parler à leur siècle en utilisant des genres littéraires différents. Des genres littéraires qu'on peut lire encore aujourd'hui. Les traités sur la tolérance de La Baumelle ont été réédités. Le Patriote français et impartial d'Antoine Court avait été réédité, toujours dans cette collection, par mon collègue canadien Otto Sell il y a quelques années. Le vieux Sévenol, dont j'ai parlé toujours dans cette collection, vient d'être réédité par l'historienne Céline Borello. Ce sont des textes qui méritent d'être lus et qui prennent toute leur saveur lorsqu'on les replace dans leur époque. Mais ce que je voudrais vous dire maintenant, et peut-être m'acheminer vers la fin, là. Oui. Donc ça sera ma conclusion. Ce que je voudrais vous dire, je vous citerai des passages si vous voulez après dans les questions. Ce que je voudrais vous dire pour finir, c'est que nous sommes dans une époque où les hommes de lettres protestants sont quasiment inexistants. Tout simplement parce que lorsqu'on est protestant, on n'accède pas à la formation littéraire, philosophique, juridique, historique, etc., supérieure, et que lorsqu'on a une formation supérieure, même à minima, en théologie, c'est pour devenir pasteur, et donc pas homme de lettres. La production littéraire en France au XVIIIe siècle, dans les rangs des protestants, elle est très faible. Elle est quasiment inexistante. À la différence de ce que l'on constate sur le plan philosophique, juridique, historique et théologique, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, en Hollande, elle est dérisoire. Mais elle est dérisoire pour des raisons dramatiques qui touchent à l'histoire et dont nous venons de parler. C'est la raison pour laquelle il vaut la peine de donner leur place à ces rares exceptions que j'ai voulu évoquer avec vous ce soir. Après Bayle Benoît, j'aurais pu en citer quelques autres, plus excités comme Pierre Jurieux, plus juridiques comme Claude Brousson, que j'ai mentionné tout à l'heure. Après ces grandes plumes-là, j'ai presque fait le tour de ceux qui ont véritablement contribué qui ont apporté leur pierre à cet édifice de la tolérance. Ce qui m'amuse, enfin, ce qui est piquant, c'est de voir qu'ils ont chaque fois essayé de trouver, au-delà de la requête juridique, de trouver un genre littéraire particulier. L'Asiatique tolérant, c'est un roman dans lequel, sur une fiction d'une histoire qui est censée se passer en Asie, on brode un certain nombre de réflexions juridiques et historiques. en essayant, à la manière des lettres persanes de Montesquieu ou des amours de Zéokinisule de Crébillon, Zéokinisule, c'est Louis XV, hein, c'est un anagramme de Louis XV, en brodant à cette manière-là, un peu exotique, on essaye par la bande de faire comprendre à une opinion, par un conte philosophique, quel est l'objet, quelle est la revendication du protestantisme. Il y a bien sûr des traités, comme des traités aussi indigestes que « Le patriote français et impartial » ou « La requête d'un, la requête des protestants de France de La Baumelle ». Mais ce traité-là, cette requête des protestants de France de La Baumelle, est un vrai traité sur la tolérance. C'est-à-dire qu'en utilisant des citations qu'il a complètement déformées, au point que c'en est tout à fait extraordinaire, La Baumelle arrive à faire, en quelque sorte, à mobiliser l'histoire du monde entier autour de la tolérance, comme s'il n'avait pas été possible d'être autre chose que tolérant lorsqu'on était humain. Il y a donc une sorte de fiction philosophique assez extraordinaire qu'il a bâtie autour de ce traité. Et puis, il y a le style épistolaire, aussi compassé qu'on puisse être quand on s'appelle Courdegé-Blin, on essaie d'adopter le style épistolaire qui, à cette époque-là, fait florès. Enfin, à cette époque-là et depuis longtemps, on essaye d'écrire des romans. Je ne vous parle pas ici des liaisons dangereuses, évidemment. On essaye de bâtir des romans sous forme épistolaire parce que l'on pense que les relations entre X et Y s'écrivant aura quelque chose de plus vivant. Et puis, il y a le roman du vieux Cévenol, Ambroise Borély, qui traverse le siècle en étant la victime d'à peu près toutes les avanies qui peuvent arriver à quelqu'un qui n'aurait pas le droit d'être de sa confession. Traité, conte, littérature épistolaire, roman, autant de tentatives pour chercher à, en quelque sorte, briser le mur. Ces tentatives sont timides et je ne voudrais surtout pas vous avoir donné l'impression qu'elles ont été déterminantes. Parce que le combat à la cour de gens comme Malesherbes ou avec lui de gens comme Lafayette, le combat que les parlementaires jansénistes ont pu mener en tant que juristes à propos de la moralité du mariage des protestants, et d'autres combats de ce type, la pression qui s'exerçait dans les cours européennes pour que la France réforme sa jurisprudence à l'égard des protestants, ont certainement pesé au moins autant, sinon beaucoup plus, sur l'évolution de cette histoire. J'en finis là pour dire que mon histoire ne se terminerait pas si j'oubliais de vous dire que Rabaut-Saint-Étienne, au moment où il négocie les termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu qu'elles ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Au moment où ce texte se négocie, Rabaut-Saint-Étienne prend la parole devant l'Assemblée et dit que la tolérance, le support, le pardon, se supporter les uns les autres, se pardonner les uns les autres, c'est-à-dire tous ces termes que je vous ai présentés en essayant en quelque sorte d'en être l'avocat, ces termes sont révolus. Ce qu'il faut, c'est la liberté. C'est la liberté et plus la tolérance. C'est-à-dire que le segment d'histoire que je vous ai raconté, qui a permis en quelque sorte un basculement dans les mentalités, et lui-même dépassé ensuite, après la Révolution française, par quelque chose qui débouchera premièrement sur les lois concordataires qui permettent une pluralité de confessions reconnues, et deuxièmement, et à long terme, en 1905, sur la séparation des Églises et de l'État, c'est-à-dire finalement la seule vraie synthèse du problème que j'ai posé au tout début, du problème politique posé par des divergences religieuses. Je vous remercie.
Alors merci pour cette reconstruction très claire et précise, comment au travers d'œuvres littéraires diverses, de divers genres, l'évolution d'une idée s'est faite au cours du XVIIIe siècle, et surtout aussi comment finalement ça, la signification de cette idée, de cette pensée, de ce terme qu'est la tolérance, hein, s'est transformée pour prendre des atours positifs hein, au lieu de négatifs qu'ils étaient au début du XVIIIe siècle. Alors je pense que vous avez certainement des questions, peut-être des remarques, des interventions à faire, en tout cas autour de ce sujet. Alors on vous laisse tout de suite la parole, et puis ce sera l'occasion, comme vous l'avez dit, hein, de lire des passages de ces textes, de ces traités ou lettres, je ne sais pas ce que vous avez concocté, mais il y a peut-être matière donc, à découvrir ces textes pour donner envie d'aller plus loin. Voilà, je vous laisse la parole. J'ouvre le feu, sinon, s'il n'y a pas de questions.
On dit que c'est toujours la première question qui est la plus difficile.
Voilà. Parler. Alors, vous avez dit que la production littéraire des protestants français était très faible. Hein, vous l'avez montré, puisqu'on fait rapidement le tour de cette production. Vous avez aussi mentionné le fait que son apport n'était peut-être pas aussi significatif que cela pour l'évolution. Hein, des positions royales, qui avaient sans doute aussi des pressions internationales, hein, le rôle de l'étranger. En matière justement de production littéraire à l'étranger, quelle est, sur ces questions de tolérance, vous avez cité Locke, mais quelle est la spécificité? Est-ce que cette production littéraire sur la question de la tolérance est significative? Est-ce qu'elle est plus riche, plus brillante que la production littéraire française? Ou au contraire, est-ce que malgré cette pauvreté, les Français sont en avance?
Je ne me prononcerai pas sur la question de l'avance, mais c'est une très très bonne question, je vous remercie. Je dirais que se posent deux problèmes. Le premier, c'est que finalement, vous allez me pousser dans mes retranchements et me faire avouer quelque chose que je n'avais pas forcément décidé de dire. Finalement, le XVIIIe siècle n'est pas très en avance par rapport à la fin du XVIIe. Je veux dire, pour être plus précis, que les idées dans leur radicalité, les idées sur la liberté religieuse sont mieux posées à la fin, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, notamment en Hollande, mais aussi en Angleterre, à cause du problème de la multiplicité des sensibilités religieuses et du problème de ce qu'on appelle le latitudinarisme dans le monde anglais, c'est-à-dire le fait de savoir si on accepte d'être plus ou moins laxiste dans le spectre doctrinal admis. En Angleterre, la question s'est posée, et elle s'est beaucoup posée en Hollande, à l'intérieur du protestantisme qui est très partagé entre ceux qui sont de purs calvinistes et ceux qui sont de sensibilité plus, comme on dit, arminienne ou socinienne, plus ou moins rationaliste, plus ou moins antitrinitaire, qui discutent sur le dogme de la prédestination. Et elle s'est aussi posée auparavant dans les rapports que la Hollande avait, ou qui s'instaurait en Hollande, entre les chrétiens et les juifs. Et l'un des premiers à avoir penser la question dans la Hollande du XVIIe siècle, c'est Spinoza, qui est considéré comme un mécréant, un athée, y compris par la synagogue qui l'excommunie, mais qui pose un certain nombre de problèmes que reprendront des gens comme Bayle, par exemple, dans sa radicalité. La question est posée par Bayle en termes de liberté de conscience, au point que Bayle arrive à imaginer qu'on puisse être athée sans être pour autant immoral. Alors que l'évidence pour l'époque, c'est que lorsqu'on est religieux, au moins on a un cadre qui vous empêche de faire de mauvaises choses. Bayle dit que ce n'est pas vrai du tout, tout simplement parce que les hommes n'agissent pas selon leurs principes. Par conséquent, la question de la liberté de conscience, la question du cadre doctrinal et moral que garantirait l'Église à un État qui, par conséquent, lui offrirait une forme de, de garantie de calme, tout cela, ce sont de fausses idées. Donc, Bayle va jusqu'au bout du problème, Spinoza, auparavant, était allé jusqu'au bout du problème, Locke un peu moins, parce que Locke n'imagine pas qu'on puisse être athée. Et dans l'Angleterre du XVIIe siècle, il n'imagine pas non plus qu'on puisse être catholique. Donc il a une tolérance limitée. J'explique pourquoi Locke n'accepte pas qu'on puisse être catholique. Ce n'est pas parce qu'il est buté, c'est parce qu'il reprend l'idée selon laquelle un catholique prête en quelque sorte serment d'obéissance à un autre souverain qu'au sien. Cet autre souverain, c'est le pape. Et que par conséquent, il peut y avoir à un moment un conflit de loyauté qui fait qu'on ne peut pas avoir confiance dans le serment du catholique à l'égard de son monarque. Hein. Donc ça n'est pas de l'antipapisme primaire, ou plutôt c'est de l'antipapisme fondamental. Voilà. Par rapport à ces questions-là, le XVIIIe siècle, j'en viens à votre question, pardonnez-moi de faire ces détours, mais il me semble important. Par rapport à ces questions-là, le XVIIIe siècle pense plus en termes de tolérance qu'en termes de liberté de conscience, et je dois dire, alors peut-être que ça va m'amener à modérer ou à relativiser ce que j'ai dit tout à l'heure, je dois dire que le XVIIIe siècle est original en France parce que la France présente un cas particulier par rapport à la tolérance qui ne se pose pas dans les autres États. L'Allemagne est un ensemble d'États, un conglomérat d'États dans lesquels on accepte que les gens passent d'un État à l'autre lorsqu'ils n'ont pas envie de vivre dans un État catholique alors qu'ils sont protestants. Et cela s'est instauré depuis le milieu du XVIe siècle et a été rappelé à la fin de la guerre de 30 ans, donc en 1648. L'Angleterre est habituée à la divergence et à la diversité religieuse, donc n'a pas forcément la même urgence pour poser ce genre de questions. C'est vrai que de ce point de vue-là, la France se pose une question qui est originale parce qu'elle a une histoire de conflit religieux originale. Mais, et c'est là que j'en reviens à la thèse que je défendais, pour autant, la contribution du protestantisme, je la crois significative en elle-même. En elle-même, ce sont de véritables réflexions qui méritent l'intérêt de l'historien. Mais je crois qu'elle a été faible sur le plan de son impact politique. C'est là que je ferai la différence. Je vais essayer de répondre plus brièvement. Oui.
Dès le tout début de votre intervention, je me rappelle que vous avez mentionné la vérité, c'est ce que vous croyez et c'est ce que les autres croient. Est-ce que par là, vous voulez dire que la vérité est relative?
Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que lorsqu'il s'agit de trancher un différend, un conflit, un désaccord entre deux personnes, la solution la plus courante, en tout cas celle qui a prévalu dans la France des XVIe et XVIIe siècles, consistait à dire à l'autre, avec lequel on n'était pas d'accord, « Tu te tais, tu as tort. Et moi, je parle car j'ai raison. » C'est comme ça que ça se passe. Lorsque c'est entre vous et moi, lorsque on se dit ce genre de choses, vous pouvez me dire ça, je peux vous le dire, on tournera en rond indéfiniment et on ne sortira de rien. On ne sortira rien de ce... Si vous pensez A, si vous pensez blanc, je pense noir, si vous pensez A, je pense B, et que nous ne nous mettons pas d'accord, nous sommes certains l'un et l'autre d'être dans la vérité et que l'autre a tort, on ne s'en sort pas. Là où ça devient intéressant et problématique, c'est quand celui qui pense A ou celui qui pense B a le pouvoir. À ce moment-là, il dit, non seulement tu as tort, mais en plus je vais te réduire au silence. Donc, je ne m'intéresse pas au contenu de A. Je ne sais pas pour l'instant, dans ma problématique, si la vérité c'est A ou c'est B. La question n'est pas là. La question c'est celle du conflit. Qu'est-ce que je fais quand précisément il ne peut pas y avoir d'instance qui dirait, du ciel en quelque sorte, la vérité c'est A ou la vérité c'est B. Premier cas de figure, l'Église catholique permet de vous répondre il y a le pape qui parle au nom de Dieu et qui vous dit la vérité, c'est A. Donc tous ceux qui pensent B ont tort. Deuxième cas de figure, qui n'est plus théologique mais politique, étant bien entendu que chez les protestants, on ne se met jamais d'accord pour le fait de savoir si c'est A ou B, en tant que ça. Deuxième cas de figure, côté politique, on suspend la question de savoir si la vérité c'est A et B. On ne dit pas qu'il n'existe pas de vérité, ou qu'il peut y avoir deux vérités, ou qu'on ne peut pas savoir laquelle est la bonne, etc. On dit simplement, politiquement, on neutralise la question. On n'est pas politiquement en mesure de savoir si la vérité c'est A ou B. Et c'est pour ça que j'ai terminé par la laïcité. C'est-à-dire, je termine par le modèle dans lequel l'État, à la fois, garantit à celui qui pense A et à celui qui pense B de pouvoir penser A ou B, c'est la liberté religieuse. Et en tant qu'État, il dit « moi, je ne me prononce pas ». La question de savoir si la vérité, c'est A ou B, ça n'est pas ma question. Moi, je gouverne, et gouverner, c'est ménager la paix. C'est faire en sorte que celui qui pense A et celui qui pense B ne prennent pas les armes l'un contre l'autre. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Bon.
Quels étaient les vecteurs de ces contes et ces romans et l'influence que ça a pu avoir sur ces lecteurs, sur la société ?
C'est aussi une question tout à fait redoutable. Alors, pour La Baumelle, j'en ai quelques indices grâce au fait que, en éditant sa correspondance, on a quelques échos de lecteurs qui lui écrivent, et on peut avoir quelques échos de comptes rendus qui paraissent dans la presse. Mais un livre qui, comme L'Asiatique tolérant, a été brûlé, condamné au feu, et donc censuré et condamné au feu, est un livre qui, du coup, n'est pas très bien diffusé et suscite une grande curiosité, de sorte qu'il est contrefait avec des éditions plus ou moins fidèles. J'en ai repéré un certain nombre dans ma propre édition critique. Il suscite l'intérêt de gens dont je me suis toujours demandé s'ils n'avaient pas cru que c'était le volume 2 des Amours de Zéokinisul de Crébillon. Crébillon était un auteur un peu libertin milieu du XVIIIe siècle auquel La Baumelle a fait des emprunts, et il est possible que les acheteurs de L'Asiatique tolérant aient cru acquérir un ouvrage plus croustillant que celui qu'ils ont eu finalement sous la main. Le patriote français et impartial d'Antoine Court, on a quelques échos dans le Languedoc protestant d'une réception, j'appelle réception le fait que justement des lecteurs réagissent, de gens qui sont plutôt satisfaits de cet ouvrage, mais on a aussi beaucoup d'avis réticents de la part des comités suisses de Genève et de Lausanne, qui juge qu'un tel ouvrage est dangereux parce qu'il donne l'impression de vouloir vouloir semer le désordre. La requête dont je vous ai parlé n'a eu, la requête écrite par La Baumelle en 1763, n'a elle eu aucun lecteur jusqu'à aujourd'hui, parce que finalement elle est restée dans le tiroir. Pour me résumer, je pense que l'impact de ces ouvrages est limité. Il est limité à un petit cénacle de gens. Éventuellement, ce sont des livres qui se passent sous le manteau, mais comme ce ne sont pas des ouvrages qui sont bien diffusés en France, ils n'ont pas en France l'impact que leurs auteurs aimeraient qu'ils aient.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait eu des lectures publiques de certains de ces textes ou de parties de textes, comme c'était fait pour les lettres de Jurieu, par exemple?
On peut l'imaginer dans la mesure où la pratique de la lecture dans des cénacles est effectivement courante, mais je n'en ai malheureusement pas de traces documentées. Mmh. Ouais.
D'autres questions ? Une question un peu annexe, est-ce que, et un peu polémique, est-ce que Voltaire aimait les protestants ?
Non. Non. Non, Voltaire n'aimait pas les protestants. Voltaire ironise sur ces huguenots qui vont chanter des psaumes en mauvais français. Avant que Paul Moultou lui écrive à propos de Calas, Voltaire avait expliqué que cet homme aurait mieux fait de rester tranquille. Et on raconte, enfin on dit que Voltaire a été en quelque sorte tourné. Alors, il avait pitié de l'histoire protestante et on dit que le 24 août de chaque année, il pleurait, il avait des crises en se souvenant de la Saint-Barthélemy. Et il a écrit la Henriade, qui est un grand poème épique interminable sur les guerres de religion et sur le rôle qu'Henri IV y a joué, dans lequel il montre, enfin disons en gros, le parti catholique a le mauvais rôle et le parti protestant a le bon rôle. Mais c'est les protestants du XVIe siècle, ça. C'est contemporain. Il trouve que ce sont des gens un peu arriérés. Lorsqu'il prend fait et cause pour la mémoire de Jean Calas, c'est, comme on dit, parce qu'on a fait venir Donat Calas, le frère de Marc-Antoine, à Ferney. Il a rencontré Voltaire, il a ému Voltaire. On dit en deux phrases, Donat a parlé et Voltaire a pleuré. Il y a une dimension d'émotion. Lorsque Voltaire prend fait et cause pour Calas, puis fait et cause pour Sirvin d'ailleurs, parce qu'il s'occupera aussi de l'affaire Sirvin, dans tous ces cas, il fait exactement l'inverse de ce que Cour de Géblin voulait faire avec les Toulousaines. Cour de Géblin dit « Toulouse, ville catholique et fanatique, veut tuer les protestants ». Voltaire dit « Je me fiche que ce soit des protestants, il y a là et là une affaire juridique qui est une iniquité, une condamnation. » Voilà. Ce qui intéresse Voltaire, c'est l'affaire, c'est le jugement inique qu'il faut parvenir à casser. Voilà. Le fait que Jean Calas ou que Pierre-Paul Sirvin soit protestant l'indiffère. Voilà. Alors, à cet élément de réponse, je dois en ajouter un autre, qui est que Voltaire habite à Genève, qu'il a écrit l'article Genève de l'encyclopédie, que dans cet article Genève de l'encyclopédie, il a écrit à peu près que les pasteurs sont de bons rationalistes, qui ne croient plus à ces fadaises de Trinité, de trucs comme ça, qui sont complètement dépassés, et qu'il a, à cette époque, à peu près toute la vénérable compagnie des pasteurs de Genève sur le paletot. Hein. Donc, il y a aussi des interactions qui ne sont pas qu'avec la huguenoterie dans cette histoire de rapport au protestantisme chez Voltaire. Voilà. Mais Voltaire est un... Je vais le dire de manière moi aussi un peu polémique, Voltaire est un bon catholique. Ce que je pense de la situation en France aujourd'hui.
Je crois que la question aujourd'hui.
J'aurais envie de dire et vous. je vais pas me défiler, mais je vous rappelle que je suis historien, donc que je veux bien répondre à cette question, mais en précisant d'abord que je n'ai pas compétence pour y répondre, ou pas plus que vous. Je peux vous donner ma réponse de citoyen. De citoyen qui lit le journal, qui réfléchit, mais je n'ai pas plus de compétences que vous sur cette question. Et en tout cas, le fait d'avoir étudié la question au XVIIIe siècle ne me permet pas de me prononcer sur le XXIe. Voilà.
Alors, peut-être pour affiner la question, oui, si vous permettez.
Affiner.
Donner la réponse comme citoyen, et au regard de la terminologie des sens de ces termes au XVIIIe siècle, tolérance et liberté. Est-ce qu'on est dans l'un ou dans l'autre ? Au regard de la signification qu'ils ont au XVIIIe, et telle que vous l'avez posée.
Là, je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que...
Alors peut-être que ça n'a plus aucun sens.
Non, c'est pas que ça n'a plus aucun sens, c'est que le sens s'est déplacé. Excusez-moi, je vais employer un gros mot et je vais l'expliquer tout de suite. Il s'est produit, c'est ce que j'ai essayé de dire sans employer le gros mot, il s'est produit plusieurs changements de paradigme entre le XVIIe et le XXIe siècle. Premier changement de paradigme, le paradigme c'est l'ensemble de l'organisation des choses les unes par rapport aux autres dans une société et dans la pensée d'une société. Le premier paradigme d'où je suis parti, c'est celui qu'on évoquait avec la question de la vérité tout à l'heure. C'est, en gros, il faut que la vérité ait des droits qu'on ne saurait donner à l'erreur. Bien. Le deuxième paradigme, c'est celui qui introduit un compromis, qui est un compromis de pluralisme religieux, et qui, pourrait-on dire, même s'il y a un décalage entre sa traduction juridico-politique et l'émergence de cette pensée philosophique bien antérieure, qui pourrait se traduire par ce qu'on a appelé les régimes concordataires. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on considère que la France est majoritairement catholique, mais il y a des cultes reconnus, le culte luthérien, le culte réformé, le culte juif. Donc on admet que par rapport à la France de Louis XIV qui était toute catholique, elle n'est plus toute catholique. Elle est bigarrée, même si c'est un peu sur ses marges. Mais on continue de penser dans ce paradigme-là que l'État doit reconnaître certains cultes et en exclure d'autres. Par exemple, pour nous rapprocher d'aujourd'hui, lorsque, au début du XIXe siècle, le Concordat et les articles organiques sont promulgués sous Napoléon, on n'a pas de problème musulman, je fais exprès de dire problème musulman, hein, on n'a pas de problème musulman qui se pose. On peut avoir un problème juif. Les juifs, depuis le Moyen-Âge, ont été ghettoisés, persécutés, mais il y a une communauté juive, il n'y a pas une communauté musulmane. Au début du XIXe siècle, en France, il peut y avoir des problèmes dans les colonies, mais il n'y a pas de problème qui amène les législateurs à se poser ce genre de questions. Du reste, en 1905, on saute 103 ans encore, quand la séparation des Églises et de l'État est promulguée, deuxième ou troisième changement de paradigme, je ne sais plus où j'en suis.
Troisième,
merci. Non, troisième paradigme, donc deuxième changement.
Deuxième changement, voilà. Ouais, on va y arriver.
Donc, à ce moment-là, il n'y a toujours pas de problème musulman. Le problème dans ce deuxième changement de paradigme, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on aille jusqu'au bout de cette trajectoire philosophique dont j'ai parlé et qu'on la traduise juridiquement et politiquement en disant « ce n'est pas le rôle de l'État de reconnaître les cultes ». La République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Voilà. Mais elle garantit l'exercice de la liberté de conscience. Alors maintenant, on est encore un siècle après, on est dans une situation où, d'une part, on éprouve tout l'intérêt de l'héritage de la laïcité et où, d'autre part, on admet que cet héritage a plus de 100 ans et qu'il n'est peut-être pas inutile de penser à son aménagement aujourd'hui, parce que la configuration sociale a changé, parce que le rapport au religieux a fluctué avec un moment où la pratique religieuse a baissé et un moment où, en quelque sorte, la fièvre religieuse est remontée, et pas seulement en France. Est-ce qu'il faut organiser ce que certains sociologues, notamment mon collègue Jean Bobéraud, a appelé un nouveau pacte laïque, étant repris à un niveau d'instrumentalisation un petit peu différent par le précédent président de la République. Ou est-ce qu'au contraire, compte tenu de la fragilité dans laquelle la France peut se trouver par rapport aux nouvelles questions qui lui sont posées, il faut ne rien changer. Moi, je n'ai pas tranché cette question-là. Et je parviens d'autant moins à la trancher que
je comprends en lisant un certain nombre d'historiens du contemporain que le modèle français doit, et à mes yeux, chaque fois que je voyage dans un autre pays, notamment pas chrétien, je me le confirme, doit éviter de s'imaginer qu'il est messianique. Le modèle français, le modèle de la laïcité à la française, a voulu, pendant tout le XXe siècle, s'exporter en disant, en raison même du raisonnement philosophique que je vous ai tenu, nous avons trouvé la solution. Nous allons vous la proposer, vous les Turcs, vous les Marocains, vous les Espagnols, vous les Italiens, vous les Allemands, etc. etc. Ce qu'on découvre aujourd'hui, peut-être plus finement qu'il y a encore 30 ans, c'est que le modèle français résulte d'une interaction entre un certain nombre de compromis très lointains, je suis remonté au XVIe siècle, d'autres plus récents, qui ont moins d'un siècle, et une histoire très particulière. Cette histoire qui explique pourquoi il n'y a pas beaucoup d'intellectuels ou d'hommes de lettres protestants ou français au XVIIIe siècle, c'est aussi cette histoire qui explique qu'on soit arrivé à un modèle laïque à la française qui est incomparable, je ne dis pas au point de vue des valeurs, hein, mais qui ne peut pas avoir exactement le même... qui ne peut pas être un modèle pour les autres, je sais pas, encore une fois, le Brésil, Israël, etc. Quand je vais, si je vais au Liban, ou si je vais en Israël, ou si je vais au Brésil, ou si je vais en Turquie, la Turquie est un pays proche, hein, de ce point de vue-là, bizarrement. Je n'ai pas l'impression que la solution pour chacun de ces pays se trouve dans l'importation dans le dit pays d'un modèle qui lui viendrait d'ailleurs. Chaque pays doit trouver sa sauce, en quelque sorte. Donc, je n'ai pas répondu à votre question, mais j'ai essayé de vous dire comment la question que vous vous posez se pose à moi.
Une autre question ?
J'aurais peut-être une question d'ordre philosophique. Quelle était l'influence, il y en a une, de Leibniz sur Bell même en réaction par rapport à cette question de la tolérance, de la vérité. Je sais qu'il y a eu des échanges de lettres entre les deux. Je voulais savoir s'il y a une influence quelconque.
Vous êtes très bien informé, mais c'est vrai, c'est vrai. Et je peux vous dire qu'il y a 2 ans, nous avons fait un colloque sur Leibniz et Bayle, qui était le premier colloque fait sur cette question. Il y a eu effectivement un peu de correspondance entre les deux hommes, il y a eu des échanges, mais je dirais que le problème de la tolérance qui se pose chez Leibniz, pour des raisons, enfin qui se pose dans les termes de ce qu'on appelle l'irénisme, dans l'Allemagne de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, la question est de savoir comment dialoguer avec les catholiques. Et Leibniz a entretenu plusieurs correspondances avec des interlocuteurs catholiques pour essayer de voir comment lui, luthérien, était en mesure de dialoguer sur le fond théologique et philosophique avec des interlocuteurs catholiques. Donc c'est vrai que c'est une vraie question pour lui. Elle est importante pour Bayle, mais jamais Leibniz et Bayle n'ont discuté de cette question ensemble. En revanche, ils ont discuté d'un tout autre problème, mais là vous me permettrez, enfin je veux bien qu'on aille au bistrot après, mais je ne vais pas me lancer là-dedans maintenant, ils ont discuté du problème, ou presque en décalage, ils ont discuté du problème de la théodicée. C'est-à-dire, ils ont posé ou reposé, dans des termes très différents, très tourmentés chez Bayle, très apaisés chez Leibniz, la question de savoir comment on pouvait à la fois affirmer que Dieu est bon, que Dieu est tout-puissant et que le mal existe. La réponse de Bayle, c'est philosophiquement, c'est impossible de l'affirmer. La réponse de Leibniz, c'est philosophiquement, c'est possible de l'affirmer. Pourquoi ? Parce que, tout bien considéré, nous vivons dans la meilleure combinaison possible des mondes. Et ce vivre dans le meilleur des mondes possibles est devenu la marque de fabrique de Leibniz, dont vous n'ignorez pas qu'il a été mis en scène par un grand admirateur de Leibniz qui s'appelait Voltaire, sous la personne du philosophe Pangloss dans Candide. Hein, voilà. Mais c'est vraiment un autre chapitre.
Voilà, on va conclure sur ces belles paroles. Je vous remercie beaucoup. Merci pour ces riches éclaircissements, pour les questions que ça soulève encore. On réfléchira peut-être un autre jour sur la théodicée. J'annonce juste la prochaine conférence sur un tout autre sujet. Ce sera Olivier Rey, qui est professeur de philosophie à Polytechnique, qui a sorti un ouvrage qui s'appelle « Une folle solitude », sous-titré « Le fantasme de l'homme autoconstruit » aux éditions Seuil, qui viendra nous parler donc le 29 novembre, jeudi 29 novembre, si je ne me trompe, à 20h30, et ce sera au Capitole. Par ailleurs, le 29 novembre est bien jeudi, je ne fais pas d'erreur. C'est un vendredi, donc ça doit être le vendredi 29 novembre. Par ailleurs, j'annonce le prochain cycle de conférences pour l'année 2014. Nous avons choisi de nous consacrer cette année, enfin l'année qui vient, à la thématique de la guerre, hein, qui était celle des rendez-vous de l'histoire à Blois, commémoration de la guerre 14 oblige, mais il nous a semblé que... venir sur le terrain uniquement de la guerre 14 risquait d'être un peu peut-être redondant, puisqu'il y aura beaucoup de commémorations sur la guerre 14. Et donc nous avons choisi d'aborder la question des protestants et la guerre. Ça n'est pas simplement, comme on pourrait peut-être l'imaginer en France, une question qui tourne à l'idée où on pourrait se faire une idée de victime, hein, victimière, je ne sais pas si ça existe, des protestants, mais la question est aussi de se demander si les protestants n'ont pas été aussi les auteurs, parfois, dans certaines guerres, je pense notamment aux guerres coloniales aux États-Unis, à la conquête de l'Ouest, mais avant la conquête des États-Unis, si les protestants, par la guerre, n'ont pas été aussi, justement, des oppresseurs, des machines de guerre aussi, en quelque sorte. Il y a la question des guerres de religion qu'on aurait pu poser. Mais bref, il y aura plusieurs sujets aussi. Le rejet de la guerre par les protestants, ce sera le pacifisme que viendra poser Patrick Cabanel. La question de la guerre dans les serments protestants, ce sera Céline Borello qui viendra nous parler de ce sujet, hein, qui a publié sur Rabot Saint-Étienne. On abordera aussi la guerre 14. Voilà. Et puis on terminera par une réflexion philosophique, hein, autour de la guerre, ce sera en décembre 2014. Voilà. Donc le prochain cycle de conférences pour toute l'année 2014, c'est donc le protestantisme et la guerre. Ça commencera avec Jean-Paul Chabrol, qui nous fera une comparaison. Il y a eu très peu de publications là-dessus, un article de Philippe Joutard, il me semble seulement, hein, comparaison entre la guerre de Vendée et la guerre des Camisards. Voilà, merci de votre attention, et puis bon retour à chacun, et merci encore à Hubert Most.